Berceau.
Bonsoir et bienvenue.
Alain Maillard.
Il est né le 8 septembre 1906 à Couvet, dans le canton de Neuchâtel. Il aurait donc eu 100 ans ce vendredi. Il sera célébré d'ailleurs vendredi ainsi que samedi au Val de Travers, dans le canton de Neuchâtel. Également vendredi à Genève, au Conservatoire de musique. Il s'agit donc de Denis de Rougemont. C'est de lui qu'on va parler de ce soir. Un des grands esprits du XXe siècle en Suisse et en Europe. Écrivain, penseur, visionnaire. Il est mort en 1985 et on va en parler avec deux hommes qui lui ont été très proches. Je commence par vous, François Saint. Bonsoir.
Bonsoir.
Le temps de laisser notre autre invité arranger son téléphone. Vous êtes donc François Saint-Ouen, le secrétaire général de la Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe et auteur d'une biographie intellectuelle de Denis de Rougemont ainsi que d'une introduction à sa vie et à son œuvre. Gilles Petitpierre, bonsoir. Vous êtes vous ancien parlementaire fédéral et le neveu de Denis de Rougemont.
Tout à fait.
Je disais donc François Saint-Ouen que vous avez écrit une introduction à la vie et l'œuvre de Denis de Rougemont. Justement, quelques mots de présentation maintenant de ce qu'il a été, de l'essentiel, de ce qu'il a laissé et de ce qu'on lui doit, au fond, à vos yeux, qu'est-ce que c'est ?
Écoutez, pour moi, bon, on a beaucoup parlé de Denis de Rougemont, l'Européen, Denis de Rougemont qui porte un message de l'intégration européenne, Denis de Rougemont qui s'intéresse à l'écologie, Denis de Rougemont qui s'intéresse aux régions. Pour moi, c'est fondamentalement quelqu'un qui est porteur d'un message qui va au-delà de ça, et qui conditionne tout le reste, qui est une vision de la société qui est centrée sur l'homme en tant que personne, en tant que finalité de la société, finalité de la politique, finalité de l'économie. C'est une conscience, si vous voulez, il reste comme ça, comme une conscience de l'Europe, comme une conscience du monde moderne. Dans les grands troubles qu'a connu le XXe siècle, c'est ce qu'il reste, à mon avis, qui restera toujours actuel de lui. Il part de l'homme et il va à l'homme en tant que personne, et tout son message est tourné vers la création des conditions susceptibles d'un épanouissement de la personne.
De la personne libre et responsable.
Oui, et y compris son engagement européen, il voyait dans un décloisonnement des sociétés nationales quelque chose qui permettait à la personne, à travers la libération de petites communautés qu'il a appelées les régions, une libération de la personne et sa responsabilisation aussi.
Gilles Petitpierre, ça vous convient
Ça me convient tout à fait. J'ajouterais peut-être ceci, mais c'est complémentaire et pas contradictoire. Ça a été un observateur extrêmement pertinent, extrêmement aigu, avec un œil extrêmement aigu de la société. Et je pense que c'est capital de penser que, de se rappeler qu'il est venu dans l'après-guerre, première guerre mondiale, et qu'il a vu se préparer la deuxième. Et il a vu s'instaurer le nazisme, il avait déjà vu s'installer le communisme comme jeune homme. Et au fond, ça a marqué toute sa réflexion, celle dont parlait à juste titre M. Saint-Ouen. Comment éviter que l'homme soit écrasé par des grandes mécaniques politiques, sociales? Il faut redonner à l'homme son espace. Et c'est un appel à l'homme autant qu'un appel pour l'homme que sa pensée est profonde.
Et vous vous sentez très proche de ses idées?
Je me sens vraiment très proche, oui.
Ouais, et vous l'avez beaucoup lu?
Je l'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé avec lui. On a au fond en commun une préoccupation écologique qui est venue chez lui à peu près en même temps que chez moi. Au fond, c'est le prolongement, n'est-ce pas ? Il a vu que après économie, écologie, œcuménisme, tout ça, au fond, allait ensemble avec ce centre de toute la réflexion qui est la personne libre et responsable.
Vous l'avez donc bien connu, Gilles Petitpierre. Si on parle de l'homme maintenant qu'il était, quel souvenir en gardez-vous ?
Moi, j'ai le souvenir d'un homme très affectueux. Il était assez redoutable quand il polémiquait, assez ironique. Il pouvait être, disons, gentiment méchant, mais très affectueux. Et c'est un oncle que j'aimais beaucoup comme oncle, déjà comme petit garçon. Je me rappelle très bien quand il est revenu des États-Unis. On a été le chercher à la gare, c'était au moment où on pouvait nous faire circuler les voitures. Et je le vois débarquer du train, j'ai un souvenir tout à fait net là. Il était tout de suite tout
gentil. Vous étiez tout petit ?
J'étais tout petit, j'avais 6 ans.
Ouais. Ouais. Uh-huh.
Mais il a tout de suite été gentil avec moi, il s'est intéressé à moi. J'étais content comme enfant d'avoir un oncle gentil,
ouais.
Souriant, charmant, très charmant et très charmeur.
Très charmeur.
Oui. Uh-huh.
Qu'est-ce qui vous a appris ?
Ah, il m'a appris des tas de choses. Il m'a appris à m'intéresser à la culture. Il parlait beaucoup de culture. C'était quelque chose d'étrange pour moi. Et déjà, comme adolescent, au fond, j'ai compris que la culture était plus importante que simplement lire, savoir. C'était absolument pas un luxe. Que c'était une maxime d'action, finalement. Et ça me vient vraiment de lui. C'est lui qui m'a fait comprendre que la culture était importante en politique. Et ça m'a tout à fait convaincu. J'entends, plus le temps avance, plus je me rends compte que les problèmes de notre temps sont largement des problèmes de culture. La façon de traiter ou de maltraiter les hommes, de traiter ou de maltraiter les travailleurs, c'est un phénomène de culture. C'est un problème de culture.
C'est une des idées qu'il défendait, que la culture était au fond plus importante que l'économie et qu'on a,
et
a,
je pense
on a
que
sur fondé tout
point,
sur l'économie.
Et je pense que sur ce point, sa pensée a de l'avenir. Je crois qu'on se rend compte maintenant, regardez la confrontation des grandes religions, c'est un problème de culture.
Mmh. François Saint-Ouen, vous l'avez connu en tant qu'étudiant.
Oui, tout à fait. Oui. J'ai 50 ans de moins que lui, alors c'est difficile de le connaître autrement.
Ouais. Et il vous a charmé tout de suite.
Oui, c'est pas la même chose. Non, mais j'en garde un excellent souvenir, comment dirais-je. Moi, ce qui m'a frappé, ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Gilles Petit-Pierre. C'était quelqu'un de profondément gentil, intéressant, et il était cohérent avec son propos. C'est-à-dire, Denis de Rougemont, le souvenir que j'en ai, c'était pas un homme de pouvoir. De pouvoir au sens, je dirais, mauvais du terme. Le pouvoir, comme il disait, le pouvoir qu'on prend sur autrui. C'est-à-dire, il était très agréable. Il avait un côté, c'est pas ironique ce que je dis, conteur neuchâtelois. Il aimait bien raconter des anecdotes pour illustrer un propos un peu plus philosophique. C'était très intéressant de l'entendre. Donc moi, j'en garde un excellent souvenir. Et je dirais que j'ai appris au moins autant à l'entendre qu'à le lire, parce que j'ai à peu près, je vais pas dire tout lu, parce qu'il a publié énormément, j'ai lu beaucoup, mais j'ai compris mieux ce qu'il écrivait en l'entendant. Je crois que j'ai eu ce privilège de pouvoir l'entendre, comme Gilles Petit-Fierre. Ouais. Et les gens qui ne peuvent que le lire, il manque quelque chose.
Mais vous consacrez pratiquement toute votre vie professionnelle à Denis de Rougemont, à le publier, à écrire sur lui, à la fondation Denis de Rougemont pour l'Europe. François Saint-Ouen, c'est vraiment de la passion, ça.
Oui, vous savez que Denis de Rougemont disait de la passion que ça faisait souffrir. Donc c'est le thème de l'amour et l'Occident, puis ça finit mal. Alors, j'emploierai pas le thème de passion. Je m'y consacre le plus que je peux, parce que malheureusement, comment dirais-je, s'intéresser à Denis de Rougemont ne nourrit pas forcément complètement son homme aujourd'hui, il faut aussi le dire. Donc, Gilles Petit-Pierre a dit qu'il a commencé par la culture, plus que par l'économie. Et lui-même disait que déjà, quand on commençait par la culture au début des années 50, ça ne rapportait pas pour lui beaucoup d'argent. Évidemment, pour ceux qui continuent à s'intéresser à ça, c'est peut-être plus difficile que de travailler sur d'autres thèmes.
Alors, si on peut parler de cette situation économique qui a été plus ou moins la sienne et qui n'était pas bonne, il s'est quand même attaqué, parce que c'est une autre grande caractéristique de cette personne et de cette personnalité, c'est qu'il a eu le courage d'aller à contre-courant. Donc, non seulement il était lucide, il observait bien, et à mon avis, c'est le début. Et puis ensuite, il a réagi avec un courage tout à fait incroyable. Et quand il s'est lancé contre, par exemple, la politique de prestige qui était liée au Concorde, il s'est fait vraiment beaucoup d'ennemis en France. Quand il a commencé à avoir des doutes sur l'énergie nucléaire, après avoir été un des promoteurs de l'idée du CERN, dont il ne faut pas oublier qu'on le lui doit, pour une grande partie, il s'est fait d'autres ennemis, et ça, je crois qu'il l'a payé cher. Il l'a payé de toutes sortes de façons, mais notamment par des difficultés dans la recherche de fonds.
Comment Denis de Rougemont est devenu Denis de Rougemont, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans un instant, mais je vous propose d'abord de l'écouter un peu, un extrait où il parle de son propre vécu.
J'étais assez content de pouvoir m'éloigner de Paris, où j'avais vécu très intensément intellectuellement, mais j'avais envie de prendre un peu l'air. Alors j'ai vécu une année à l'île de Ré, dans une maison qu'on m'avait prêtée, et puis une année dans le sud des Cévennes, un village qui s'appelle, une petite ville qui s'appelle Anduze. Alors ça m'a fait entrer en relation avec les gens. Alors ça a été très utile pour moi de pouvoir faire une sorte de vérification humaine sur le terrain de nos théories communalistes, régionalistes et fédéralistes, et de voir que c'était pas si facile que ça. C'était tout à fait un choc pour moi de me trouver planté dans un petit village de l'île de Ré, près d'une petite ville du Midi, avec des gens qui n'avaient pas la moindre idée des problèmes dont nous avions si passionnément débattu à Paris, qui avaient leurs problèmes à eux et qui ne comprenaient pas du tout les miens. Et ça a été une mise au point, si vous voulez, une mise au concret, qui m'a été extrêmement bénéfique. Non seulement j'en ai tiré ce livre d'observation quotidienne, qui est le journal d'un intellectuel en chômage, mais j'en ai tiré une espèce de sens réaliste de la distance entre la théorie et l'application dans la vie politique.
Voilà, c'est un extrait d'un CD que nous avons sorti à la mi-août à la Radio Suisse Romande, sur un CD que vous pouvez commander à la boutique de la RSR, Denis de Rougemont, qui parlait donc de ces années 1933-35 où il a quitté Paris pour un exil relatif en campagne. Gilles Petitpierre, ça vous fait peut-être réagir aussi sur ce qu'il dit à propos de la dichotomie entre théorie et pratique dans la vie politique?
Oui, c'est l'éternel problème, n'est-ce pas, quand on se mêle des affaires des autres, ce qui est le cas de tous les gens qui font de la politique, quel que soit le sens. Hein, il avait une notion très large de la politique, il n'aimait pas la politique politicienne. Mais quand on se mêle des affaires des autres, on est souvent surpris de voir que les autres ne sont pas tellement enclins à approuver qu'on s'occupe de leurs affaires, ou même à s'intéresser à l'intérêt qu'on leur porte. Oui. Et alors ça, c'est assez sympathique d'entendre cela dans la bouche de Denis de Rougemont. On pourrait ajouter quand même qu'il y a eu une première phase, qui est son passage par la cure de Couvet, d'où il ressort, quand on lit ses écrits et ses mémoires, qu'il a quand même observé le monde comme petit enfant à la cure d'un village ouvrier, et que là, il a eu une première conscience comme gamin des difficultés dans la société. Et ça, je pense que ça l'a déjà marqué. Il a été ensuite, dans son évolution intellectuelle, frappé par la confrontation avec le public beaucoup plus tard, mais je pense que dès son enfance, il a eu un certain sens des difficultés des gens dans une société cruelle.
François Saint-Ouen, comment expliquer le parcours de Denis de Rougemont, fils de pasteur et petit-fils de pasteur, peut-être que ça joue aussi un rôle, qu'est-ce qui l'amène sur ces terrains d'exploration intellectuelle ?
Écoutez, vous dites fils de pasteur, petit-fils de pasteur, c'est une dimension tout à fait essentiel pour comprendre Denis de Rougemont, en parlant de manière œcuménique, on est bien d'accord, mais c'est fondamentalement un penseur éthique. C'est un penseur éthique et c'est un penseur qui va développer ce qu'il va appeler l'amour du prochain, mais une éthique de l'engagement vis-à-vis d'autrui. C'est pour ça que l'extrait que vous avez passé est très intéressant, parce que certes, à Couvet, il a découvert quand il était enfant que c'était un village ouvrier, il y avait, etc. Donc il a découvert, je dirais, ce qu'on a appelé le prolétariat, entre guillemets, très tôt. Mais ensuite, c'est devenu quand même un intellectuel, avec tout ce que ça suppose, avec les débats d'idées, il va à Paris, etc. Donc tout ça est très brillant, il développe des thèses personnalistes qui peuvent être parfois assez abstraites. Et il s'en rend compte quand il se retrouve au chômage, parce que ça, c'est très concret. Parce que la maison d'édition dont il s'occupe à Paris ferme, maison d'édition protestante, bon, et ferme. Donc lui, il se retrouve au chômage et des amis lui prêtent des maisons, donc à l'île de Ré et à Anduze dans le Gard. Et là, il rencontre des gens, ce qu'il appelle des gens ordinaires. Et il se rend compte du décalage qu'il peut y avoir entre des discussions de groupes d'intellectuels et puis ce qui pouvait être ses lecteurs potentiels. Mmh. Et toute sa vie, il s'était forcé, il avait un très très beau style d'écrivain, mais il s'était forcé d'être toujours accessible à n'importe quel lecteur tout en écrivant bien, parce qu'il voulait que son message passe. Et pour lui, c'était extrêmement important. Donc je dis, c'est un écrivain éthique. Mmh. Et donc cette dimension est importante chez lui, sinon on ne comprend pas Denis de Rougemont, quelque part on perd quelque chose.
Et il voulait être écrivain principalement.
Ah, il s'est toujours pensé comme écrivain. Ouais. Bon, on ne va pas à nouveau parler de Calvin, etc., de cette tradition calvinienne, mais il accordait beaucoup de prix dans la définition de la personne à la vocation, c'est-à-dire ce qu'on doit faire. Et lui, sa vocation, c'était d'être écrivain. Il l'a toujours dit, il s'est toujours considéré comme écrivain, c'était sa vocation.
Gilles Petitpierre, qu'est-ce que vous diriez, vous, qui constitue au fond l'événement le plus décisif sur le parcours de Denis de Rougemont? Est-ce que c'est ça? c'est les premiers livres? Est-ce que c'est l'exil aux États-Unis pendant la guerre, le retour en Europe?
Ça m'est vraiment impossible de vous le dire, parce que c'est un développement. Mais je pense que ça a commencé assez tôt. Je pense que lui a eu le grand choc en voyant les dictatures. Je pense que c'est ça. Je pense que le grand choc, c'est ça. C'est au fond des gens qui sont maltraités. C'est des gens qui ne sont pas traités comme des humains. Et d'où cette idée de la personne? La personne, c'est l'être humain à qui on reconnaît son humanité, par opposition à l'individu, qui est un chiffre, n'est-ce pas? Et qui est à la limite une sorte d'animal. Tandis que pour lui, il faut que l'homme redevienne humain. Pour qu'il redevienne humain, il faut qu'on le reconnaisse, qu'on reconnaisse sa liberté, qu'on la respecte, qu'on reconnaisse sa responsabilité, qu'on lui en demande compte. Mais qu'on fasse tout ce qui est possible pour que cette liberté et cette responsabilité puissent s'exercer, et puis ensuite, exhortation pour que cette liberté et cette responsabilité s'exercent vraiment. C'est l'appel permanent, et moi je pense que ça remonte à son très jeune âge, donc autour de ses 20 ans. C'est un écrivain utile, hein. Il dit quelque part, je ne cherche rien d'autre qu'à être utile. Ça, c'est vraiment une clé. Et puis, il a un autre passage sur le style qui vaut la peine d'être lu, où il dit, le style, c'est pas du tout esthétique. Le style, c'est beaucoup plus profond. Il faut que le style exprime le fond de la pensée. C'est un moyen, c'est un véhicule du fond de la pensée. Donc, toujours cette idée de la subordination des moyens à la fin.
Denis de Rougemont, on va continuer à en parler dans quelques instants. Gilles Petit-Pierre, François Saint-Ouen, après avoir écouté Miossec, Mes crimes, le châtiment.
Radio Suisse Romande, la première, Recto Verso.
Je ne renie pas mes crimes, je ne chipote pas sur le châtiment, car j'ai quitté la société civile. Devenir délinquant, j'ai embarqué ma carabine, échafaudé des plans. Je ne suis pas un pouce au crime, je veux juste en sortir vivant. On peut parfois toucher au sublime, comme on peut partir les pieds devant, et puis un beau jour quitter la vie. On marche sur le fil, on ne change jamais vraiment. Si je reste si indocile, j'ai respecté tous mes serments. Je ne sais pas prier, je ne sais que te dire. J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Je ne sais que crier, je n'ai rien à t'offrir. Est-ce que désormais tu me comprends? Je ne veux plus me plier, je ne peux que m'enfuir. Désormais tu me comprends. Tu pourras bien me supplier, tu pourras bien me maudire, mais il faut que j'y aille maintenant. Je ne renie pas mes crimes, je ne chipote pas sur le châtiment, car j'ai quitté la société civile. Embarquer ma carabine, échafauder des plans. Je ne suis pas un peu ce crime, je veux juste en sortir vivant. Je ne sais pas prier, je ne sais que te dire. J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Je ne sais que crier, je n'ai rien à t'offrir. Est-ce que désormais tu me comprends? Je ne veux plus me plier, je ne peux que m'enfuir. Désormais tu me comprends. Tu pourras bien me supplier, tu pourras bien me dire, mais il faut que j'y aille maintenant. Je ne sais pas prier, je ne sais que te dire. J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. J'ai déjà perdu trop de temps.
Recto Verso à Genève en compagnie de deux invités pour évoquer la mémoire de Denis de Rougemont qui aurait eu 100 ans vendredi le 8 septembre. Ces deux invités sont Gilles Petit-Pierre, ancien parlementaire fédéral, et François Saint-Ouen, secrétaire général de la Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe. Alors, on va continuer à parler de ce qu'il fut, mais on va commencer par écouter le billet que lui consacre Sophie Proust.
Nous célébrons un grand homme aujourd'hui, Denis de Rougemont. Mais qui est ce Denis de Rougemont? Un repère tout simplement comme le drapeau à croix blanche. Pourtant, un grand homme comme lui est parfois moins connu que la tome du même nom. La tome de Rougemont, je connais, me disait le week-end dernier une gourmande à la crèmerie. Denis, un peu moins. L'un de ses premiers ouvrages s'intitule « Penser avec les mains ». Il me pardonnera là où il est que d'autres pensent avec le ventre. Pourtant, quelle honte. Oui, quelle honte. Je prie aussi Gilles Petit-Pierre et François Saint-Ouen d'excuser cette entrée en matière assez grasse. Oui, quelle honte quand on parle d'un homme tel que cet originaire de Couvet qui savait tout, surtout, qui avait un avis sur tout. Voilà un homme qui a écrit sur l'amour et l'Occident, sur le fédéralisme, le nazisme, le matérialisme dans lequel s'englue notre pauvre monde, la bombe atomique et l'Europe. Et il aurait sûrement, s'il vivait encore, quelque chose à dire sur le loup de Conches, Doc Gynéco réimplanté chez Sarko et la simplicité de la Constitution européenne. Non content de plancher sur des sujets aussi complexes, il noue des amitiés avec Saint-Exupéry, André Breton ou Saint-John-Perse. Manifestement, nous n'aurions jamais eu les mêmes crèmeries. Gageons que si l'au-delà existe, il ne se retrouve pas en compagnie des membres de la famille qu'il n'aimait pas, mais fréquente assidûment Socrate, Marx et Ronsard. C'est donc un homme d'exception auquel nous consacrons une heure aujourd'hui, et je m'adresse à nos invités maintenant. La pensée de Denis de Rougemont, touche à tout, honnête homme à la façon des grands classiques d'autrefois, continue-t-elle d'être pertinente aujourd'hui dans le monde complexe qui est le nôtre?
Qui a envie de réagir?
Oui, ça me fait rire parce que dans la dédicace de Penser avec les mains, il a dit et c'est un livre qui ne s'adresse pas aux gens qui pensent avec les pieds. C'est un début de réponse.
Ouais.
Je crois que sa pensée est totalement actuelle, en ce sens qu'il appelle à agir. Et il dit « rien n'est désespéré si on agit ». Le désespoir, c'est la renonciation à l'action. Il lutte contre tous les déterminismes. Il dit toujours « il ne faut pas s'en remettre aux prévisions, parce que c'est une façon de renoncer à agir ». Il faut pas dire qu'est-ce qui va arriver, je paraphrase, il faut dire qu'est-ce que je peux faire. Et ça, c'est d'une actualité absolument totale, c'est adressé à la jeunesse. Et cette culture dont on a l'air de se moquer, moi je pense que c'est bien qu'il ait eu une grande culture, parce qu'elle a permis de réfléchir avec pertinence et de répondre avec pertinence à pas mal d'arguments à son époque.
Mais quand vous dites que c'est totalement actuel, Gilles Petit-Pierre, cette foi en la volonté de l'homme, ça veut dire qu'on a tendance un peu à l'oublier, à vos yeux ?
Alors, à mon avis, on a tendance à l'oublier, n'est-ce pas ? On a cette prépondérance des sens sociaux maintenant, qui sont des grandes lois, entre guillemets, parce que ce n'est pas des lois du tout, mais ces lois scientifiques, les lois de l'économie, les lois de la sociologie, les lois de ci, de ça. Et ça, quelque chose de complètement désespérant, parce que notamment la jeunesse se dit, mais au fond, je ne peux rien faire, puisqu'il y a des lois, entre guillemets. Ça va arriver comme ça doit, indépendamment de ce que je peux faire. Et ça, c'est le début du désespoir. Et il dit toujours, à la prévision, qui au fond en général est fausse par-dessus le marché, quand on vérifie, il faut substituer la prophétie. Et la prophétie, pour lui, c'est appeler à l'action en vue de faire quelque chose, et non pas rester dans une chaise en disant « les avalanches vont me tomber sur la tête ».
François Saint-Ouen, vous avez envie d'ajouter quelque chose à cela?
C'est difficile. Gilles Petit-Pierre a été très éloquent et c'est totalement vrai. Donc il a résumé un petit peu les thèses de Denis de Rougemont, notamment développées dans son dernier grand livre, ouais. L'avenir est notre affaire. C'est clair que Denis de Rougemont, comme j'ai dit au début, est à la fois une conscience qui ramène tout à l'homme, et puis il s'est défini comme un pessimiste actif. Mais le mot actif est très important, c'est-à-dire il donne toutes les raisons de se poser des questions sur nos sociétés, ce qu'on ne fait pas assez, parce qu'on a l'habitude, on tient ceci pour acquis, on voit, il y a les lois de l'économie, il y a le fonctionnement de la politique ou de la géopolitique, on ne se pose plus de questions. Et lui ramène tout ça sur que peut-on faire que peut-on faire, nous ? Donc, il est vraiment contre les déterminismes. Et ça, c'est très important dans notre société.
Alors, on a évoqué quelques noms de ces nombreux livres. Il y avait L'avenir est notre affaire, le dernier. Sophie évoquait L'amour et l'Occident. Qu'est-ce que vous considérez, vous, François Saintois, comme son œuvre la plus marquante ?
Écoutez, moi j'ai une vision subjective puisque c'est mon expérience personnelle. Donc pour moi, le plus beau livre de Denis de Rougemont, je le dis parce qu'il peut être contesté d'un point de vue ethnographique, surtout avec les progrès qui ont été faits, c'est L'aventure occidentale de l'homme, qui est un livre qui est paru en 1957. Et c'est un livre qui projette, disons, c'est un livre qui montre que sa visée n'est pas uniquement occidentale et européenne, c'est la visée de construire ensemble sur des valeurs communes d'une culture européenne ou occidentale, mais de dialoguer avec les autres cultures pour trouver une commune mesure humaine. Et c'est aussi son idée que la fédération européenne qui doit libérer l'homme et le rendre responsable, c'est aussi un embryon, c'est pas pour elle-même, c'est un embryon d'une fédération mondiale. Et d'une chose aussi, et il s'est rendu compte dans les lettres sur la bombe atomique de 46, il s'est dit, bon, il y a ces moyens de destruction massive qui peuvent détruire l'humanité, il faut avoir un mode de réponse qui soit à la hauteur de ça, et donc de travailler pour une fédération mondiale. Et c'est pour ça qu'il a travaillé pour la fédération européenne, il ne faut jamais l'oublier.
Gilles Petitpierre, la vôtre.
Je souscris à ce que vous dites. J'ajouterais quand même que dans tous ces livres, il y a un élément fort, ce qui m'empêche de choisir finalement. Quand vous pensez aux journaux, notamment au Journal d'Allemagne, il y a une espèce d'acuité dans le regard, il y a une espèce de sensibilité devant ce que sont les forces de l'hitlérisme en marche. C'est tout à fait incroyable. Quand vous prenez La Suisse, histoire d'un peuple heureux, on ne pouvait pas parler mieux de la Suisse. J'entends parler avec sympathie d'ailleurs de la Suisse et de son fédéralisme. C'est tout à fait attachant pour les Suisses. Moi, j'aimerais faire de la réclame, penser avec les mains. C'est une expression d'ailleurs merveilleuse.
Oui, superbe.
C'est comme le disait M. Sointon en préparant l'émission. C'est qu'il écrit à la main, parce qu'il ne savait pas taper la machine, mais c'est aussi penser avec les mains, c'est-à-dire que la pensée ait une expression concrète et qu'on ne soit pas un intellectuel désincarné. Je ne peux pas choisir.
C'est plutôt la réflexion philosophique ou éthique qui vous passionne le plus chez lui, Gilles Petitpierre, j'ai l'impression.
Oui.
Plus que les écrits politiques proprement parlés.
Oui, c'est la même chose. Hein. Pour lui, politique, éthique, j'ai peine à séparer. C'est pour ça qu'il est éloigné de la politique politicienne en disant, moi je vais me noyer là-dedans et je vais me prendre les pieds. Je ne suis pas fait pour ça. En revanche, une vraie réflexion politique. Mais quand même, quand vous prenez Mission et démission de la Suisse, qui est un ouvrage qui est fait de textes qu'il a écrit entre 38 et 40, vraiment moment difficile, ce qu'il dit à ce moment-là est d'ordre politique, est d'une grande qualité. Il y a un texte que les Suisses devraient lire, d'ailleurs. Ça, il faudrait peut-être suggérer à certains Suisses alémaniques, maintenant, de lire cela. Il y a un passage qui s'appelle, un chapitre qui s'appelle Neutralité oblige. D'abord, c'est un beau titre, Neutralité oblige, hein, comme Noblesse oblige, et il montre comment le fait qu'on se donne le droit de se retirer d'un certain nombre de dangers du monde, nous oblige en compensation à fournir quelque chose au monde en échange de cela. Et c'est d'une actualité incroyable, n'est-ce pas ? De nouveau, il a sur la neutralité dit ce qu'il fallait dire et qu'il faudrait rappeler aujourd'hui à certaines personnes qui font de la politique en Suisse.
Oui, je souscris parce que comme on me dit de choisir, effectivement c'est difficile, j'ai dit que c'était subjectif, c'était mon expérience personnelle, c'est le premier livre que j'ai lu et qui me paraît toujours très très beau, L'aventure occidentale de l'homme. Et là, je suis totalement d'accord. Un livre m'a frappé, c'est Mission, d'ailleurs, le titre est magnifique, Mission ou démission de la Suisse. Et là, c'est un livre, d'ailleurs, qui est paru en 1940, qui a été traduit en allemand la même année, mais ça, qu'il faudrait rééditer, que les Suisses doivent relire.
On vous retrouve dans un instant, François Saint-Ouen, Gilles Petitpierre, le temps d'un détour par les routes.
Infotrafic, RSR.
Un accident vient de se produire sur l'autoroute Genève-Lausanne à la hauteur de Morges-Est. Il provoque un ralentissement en direction de Lausanne. Ce qui m'étonne un peu, François Saint-Ouen, Gilles Petitpierre, c'est que vous ne mentionnez pas le livre qui est réédité tout le temps en livre de poche, qui est au fond le grand succès de Denis de Rougemont, c'est L'amour et l'Occident, ce livre qui expliquait comment est né le mythe de l'amour-passion en Occident. Alors là, on est loin du terrain politique. C'est pas un livre qui vous a marqué particulièrement ?
beaucoup moins. C'est un livre académique, et pourtant j'ai fait des lettres, mais des lettres classiques, mais je suis moins fondamentalement touché par ça. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais je trouve que c'est un niveau de culture qui est vraiment la culture, comme on l'entend habituellement, c'est pas cette culture d'action qui me plaît beaucoup plus. Bon, question de tempérament.
Oui, alors je suis parfaitement d'accord, c'est un très très beau livre. Si je ne le mentionne pas en premier, c'est que tout le monde en parle toujours en premier, donc il faut que nous, on ait un peu un autre regard. Et je pense que c'est un livre qui a véritablement fait beaucoup parler de lui, il y a eu beaucoup de commentaires au sein des universités et des universitaires. Alors moi, quand je parle de ce livre-là, j'essaie d'en tirer ce qu'il y a de non-universitaire mais d'engagé dans la société. Par exemple, quand il fait dans L'amour et l'Occident, de l'amour-action, le couple de l'homme et d'une femme, donc l'union dans la diversité, donc le paradigme du fédéralisme, ça c'est intéressant, ça débouche sur quelque chose. Je m'efforce toujours de relier ce livre-là à des écrits plus engagés et moins entre guillemets universitaires, et ne pas en faire ce que les universitaires en font, c'est-à-dire un commentaire sur le Moyen-Âge, etc., sur les sources qu'il a pu utiliser, etc., etc.
Question un peu de fiction, s'il vivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait envie d'écrire, selon vous ?
Je crois qu'il continuerait à appeler, je ne sais pas sous quelle forme, il trouverait certainement de nouvelles formes, mais je crois que ça continuerait à être un appel. Parce que quand vous lisez la fin de plusieurs de ses ouvrages, vous vous rendez compte qu'il dit « Et même si ça ne réussit pas, tant pis, ce qu'il faut garder, c'est l'espérance. » Parce que il y a un dialogue fictif, je ne sais plus dans lequel de ses livres, où on lui dit « Mais au fond, si l'espèce humaine disparaissait, qu'est-ce que ça ferait ?» Et il dit « Ça serait très grave, parce que si l'espèce humaine disparaissait, ça serait la fin de l'espérance.
Ouais. »
Et je crois qu'il trouverait. Mais il appellerait.
Ouais. C'est ça, il faut que l'homme vive à cause de l'espérance. C'est son message aussi. Parfois, je me dis qu'il a bien fait de mourir. Enfin, aussi parce qu'il aurait été très peiné de certaines évolutions du monde contemporain, comme il était peiné de certaines évolutions du monde qu'il a vécu. Mais c'est vrai qu'il aurait... c'est une voix qui nous manque. C'est une voix qui manque aussi à la Suisse dans le théâtre, pas seulement européen. Je ne parle pas des relations Suisse-Union européenne, mais de manière beaucoup plus large. Et c'est vrai que là, on se dit qu'un penseur de cette envergure nous fait défaut maintenant. C'est peut-être aussi une figure qu'on n'a jamais beaucoup pratiquée en Suisse, qui a été pratiquée dans la culture française du grand intellectuel, qui est quelque chose qui n'existe plus, qui en Suisse est toujours un peu mal passé, mais en France, ça marchait bien. Il y avait des grands intellectuels comme Malraux, comme Sartre, etc. Ce qu'on appelait des maîtres à penser à un moment donné. Ils se situaient un peu dans... Maintenant, il n'y a plus.
Mais selon vous, il n'a pas la notoriété qu'il mérite ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je suis quand même frappé. J'ai l'impression que parfois, des gens ailleurs en Europe connaissent plus et s'intéressent plus à Denis de Rougemont que ce n'est le cas en Suisse. C'est-à-dire, Denis de Rougemont est devenu une espèce de monument. Je ne sais pas si le petit Pierre va me contredire. Ce qui dédouane les gens de le lire, finalement. Donc, on se dit, bon, on le connaît parce qu'on connaît son nom. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont parfois plus si jeunes que ça, qui connaissent Denis de Rougemont, mais qui n'ont pas lu. Et c'est dommage. Et c'est vrai que, disons, sa pensée ne peut exister que si elle est relue. C'est très important.
Je partage tout à fait cette dernière phrase. J'ajouterai ceci. Je crois que c'est quand même dommage qu'il n'ait pas vu tomber l'Empire soviétique. Ouais. Parce que ça aurait donné raison. Ça justifiait tellement l'analyse qu'il en avait faite.
Ouais, tout à fait.
Et alors il aurait souffert parce qu'il aurait vu qu'on remplaçait le régime soviétique par un économisme effréné.
Oui, qu'il condamnait absolument.
Qui était aussi quelque chose qu'il condamnait.
On parlait tout à l'heure d'une voix qui nous manque, François Antoine. On va écouter une autre voix maintenant bien connue, celle de Johnny Hallyday. J'oublierai ton nom.
Radio 6 Romand de la Première, Recto Verso, Alain Maillard.
Deux semaines inutiles en fut-il le dimanche, une seconde immobile aux aiguilles qui penchent, j'oublierai ton nom. Les quatre nouveaux murs dans un autre quartier, de pinceaux de peinture en meubles installés, j'oublierai ton nom.
de la piste suante à la dernière danse de quelques nuits de feu aux matinées de cendres, de cette agitation dénuée de tout sens, du fond de ma raison jusqu'à mon inconscience. La main d'un ami, au baiser d'une bouche, tous ceux qui sauront lire que le mal a fait mouche, j'oublierai ton nom.
Avec le soutien de la première Recto Verso à Genève, avec deux invités pour évoquer la mémoire de Denis de Rougemont. François Saint-Ouen, secrétaire général de la Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe, auteur de plusieurs livres concernant le grand écrivain neuchâtelot-genevois européen. Et notre autre invité, c'est Gilles Petitpierre. Vous souhaitiez ajouter quelque chose à propos de la...
Oui, une contribution à l'explication du relatif oubli dans lequel il est tombé. Il n'a été d'aucune chapelle et il a été toujours au-dessus des grands clivages habituels gauche-droite. Donc, comme on le disait juste avant la musique, quand l'Empire soviétique est tombé, il aurait été heureux, mais il aurait été inquiet de voir par quoi il était remplacé. Et ça fait que on a peu d'amis parce qu'il était dans aucune chapelle, ni de gauche, ni de droite. Et je pense que dans les milieux intellectuels, son ton assez dur, quelquefois, fait qu'on ne l'aimait pas. Et qu'on je pense que c'est une des raisons. Mais c'est une bonne raison pour que les gens le lisent, n'est-ce pas ? Ouais. Il faut que le public le lise. C'est un, comme vous le disiez, M. Saint-Ouen, tout à l'heure, c'est un auteur qu'on peut lire. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour le lire.
Ouais. Son côté hors des chapelles, libre, ça a été aussi un peu le vôtre, Gilles Petitpierre, en politique. On va profiter de prendre quelques nouvelles de vous maintenant, dans ouais. quelques instants, puisque...
c'est vrai, que sur ce point-là, je suis en ouais. parenté complète avec lui. J'ai toujours considéré que la division de la société en deux mondes, la gauche et la droite, ne correspondait à aucune réalité. C'était commode, mais faux. De ce fait, mais j'ai eu de la chance. Hein. Au lieu d'être renié par tout le monde, j'ai eu pas mal de de gens qui ont quand même voté pour moi pendant un certain temps.
Vous avez été parlementaire fédéral pendant 16 ans, et puis vous étiez professeur de droit à l'Université de Genève jusqu'à l'an dernier.
Tout à fait.
Vous avez été candidat malheureux au Conseil fédéral en 1998, et depuis lors, on n'a plus trop entendu parler de vous.
J'étais déjà parti quand
oui, vous aviez quitté le Parlement quand vous avez été candidat. Vous, Gilles Petitpierre, qui êtes fils de conseiller fédéral et neveu d'un grand penseur européen qu'on a largement évoqué, est-ce que vous avez eu le sentiment dans votre vie que vous deviez suivre de grandes traces ?
Alors, je ne l'avais certainement pas ouvertement dans l'esprit, mais probablement que ça a dû me travailler quelque part. Ça relève du psychologue. Le psychiatre, c'est trop dire, mais ça relève du psychologue. Et là, je pense que j'ai été impressionné par cela. À vrai dire, c'est l'écologie qui m'a fait faire un peu de politique. J'aurais pu faire de la théologie, je ne l'ai pas fait. Et puis, tout à coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Bon, probablement. Oui. Mais c'est aussi l'intérêt de la chose. Hein. Je ne veux pas dire que j'ai fait de la politique que pour me dévouer, etc. Pas du tout, ça me passionnait, je trouvais ça intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire.
Autant que le droit, ça va bien ensemble ?
Ah, ça va extrêmement bien. Et puis, ça se complète, n'est-ce pas ? Il faut que la politique gouverne la formation du droit, et puis il faut que le droit mette de l'ordre dans la politique. Non, ça va bien ensemble.
Oui. Est-ce que vous auriez été candidat au Conseil fédéral si votre père ne l'avait pas été lui-même conseiller fédéral ?
Ça m'aurait été moins difficile de faire acte de candidature s'il ne l'avait pas été. Il y avait quelque chose de pénible dans le fait que mon père avait été conseiller fédéral. Mais d'autre part, je trouvais que le fonctionnement à l'époque des règles sur l'élection du conseil fédéral était tellement inadmissible que je me suis senti obligé de faire ça. Ça me pesait.
Ouais. Ça me pesait. Mais ça avait d'ailleurs pesé aussi à votre père, son élection.
Oui, oui. Mais alors c'était le contraire. Moi, ce qui me pesait, c'était de faire une candidature qui avait très peu de chance et qui était au fond soutenue par moi, exclusivement. tandis que mon père, c'était tout à fait l'inverse. Tout le monde voulait qu'il fasse ce qu'il a fait. Et ça lui tombait dessus parce qu'il avait le sentiment que la tâche dépassait ses capacités.
Si c'était à refaire, vous le referiez, cette candidature ?
Oui, je le ferais mieux. C'est-à-dire que j'essaierais d'avoir des appuis quand même un peu plus forts que ceux que j'ai eus. J'étais très mal organisé à l'époque.
Ah oui. Vous êtes parti un peu au fusil.
Tout à fait. Et puis dans une période où j'avais dans mon entourage quelque chose de triste qui se passait et qui fait que j'ai pas mis l'engagement que j'aurais dû mettre là-dedans.
Ouais. Une autre chose pour laquelle vous avez eu, on a beaucoup parlé de vous dans votre carrière politique, Gilles Petitpierre, c'était vos propositions de réforme des institutions, du fonctionnement du Parlement et du Conseil fédéral.
Tout à fait.
Ça n'a pas donné grand-chose.
Non, je fais partie de ces gens qui proposent. Vous savez, j'ai toujours l'image à l'esprit qui remonte aux sciences naturelles. Quand j'étais au gymnase, notre professeur de sciences naturelles nous expliquait qu'il fallait 10 000 œufs de grenouille pour une grenouille adulte. Alors, moi, je suis d'accord d'être dans les 999, dans les 99 999 œufs de grenouille qui donnent rien, mais qui font que, parce qu'ils existent, il y aura peut-être une fois une grenouille adulte. Et vous voyez, ces problèmes reviennent. On finira quand même par bouger là-dessus. Ouais. On finira quand même par se dire que ça va plus. Les disputes continuelles entre les conseillers fédéraux, maintenant, qui deviennent ouvertes, carrément ouvertes. Ils n'ont même plus la pudeur, au fond, de cacher cela.
Ouais, on a le sentiment que les problèmes que vous analysiez il y a 15 ans sont encore plus aigus aujourd'hui.
Ils se sont simplement encore accrus, et on finira bien par s'en occuper, j'espère. Ouais. D'où le fait, on me disait l'autre jour, mais Denis de Rougemont, au fond, on n'en parle plus beaucoup, c'est très triste, etc. Je dis, mais tant pis, ça peut revenir, n'est-ce pas ? Il faut que ça revienne, et voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné, on perd son actualité que la pensée est périmée.
La situation politique de la Suisse aujourd'hui, vous continuez à beaucoup vous passionner pour le débat.
Ces problèmes-là m'intéressent parce que je trouve que c'est tout à fait dommage qu'un pays qui a quand même beaucoup de chance n'utilise pas la chance qu'il a pour faire mieux. Ouais. Et je trouve ça un peu triste.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire mieux ?
On pourrait avoir une attitude vis-à-vis de l'Europe, par exemple, beaucoup plus décontractée, moins centrée sur les intérêts. On pourrait avoir une politique internationale moins contrôlée que celle qu'on a. Et aucune critique à l'égard de Mme Calmiré, d'ailleurs, elle fait une magnifique politique. Mais on pourrait avoir une neutralité un peu plus heureuse, n'est-ce pas ? Dans l'optique, neutralité oblige, comme disait Denis de Rougemont. C'est quelque chose qui est positif d'être obligé. C'est une façon de vous dire, vous avez la chance d'être dans cette situation-là, utilisez-la positivement, au lieu de cette neutralité grincheuse qui se ferme de plus en plus, n'est-ce pas ? Contrairement à toute notre tradition de neutralité, en plus. plus. Ce qu'il faudrait aussi dire à pas mal de gens en Suisse alémanique, c'est que notre tradition d'ouverture est en train de s'éteindre et que leur notion de la neutralité n'a absolument pas de fondement historique. Ça, c'est quand même important.
Ouais. François Saint-Ouen, quand on est un fédéraliste européen, comme vous l'êtes, dans le sillage de Denis de Rougemont, est-ce que on est un petit peu amer de l'évolution et de la Suisse et de l'Europe?
Oui, on peut l'être, on peut partager tout à fait ce que dit Gilles Petitpierre. S'agissant de la Suisse, il est quand même dommage, pour reprendre les termes de Denis de Rougemont, c'est que la Suisse n'assume pas sa mission. Mission signifie qu'elle a une responsabilité particulière par rapport à l'ensemble européen, parce qu'elle a construit une société démocratique et plurielle, c'est-à-dire fédéraliste. Donc elle doit partager quelque chose avec l'ensemble du continent européen. Et si on s'adresse, alors à ce moment-là, à Bruxelles, à l'Union européenne, on a parfois l'impression que les choses se font pas forcément avec l'homme ou le citoyen au centre des événements, mais que ce sont plutôt des grands courants dont on peut penser un jour, je ne veux pas dire qu'ils vont écraser l'homme, parce que la finalité n'est pas totalitaire, mais qu'ils l'oublient parfois. Et quand on entend l'Union européenne toujours dire « il faut rapprocher l'Europe du citoyen », Denis de Rougemont a commencé par le citoyen. Et là, Denis de Rougemont apporte un regard critique sur certains risques, si vous voulez, de l'intégration européenne d'aujourd'hui.
Et la panne constitutionnelle de l'Europe, qu'est-ce qu'il en aurait dit?
Vous savez, jamais une constitution n'a résolu les problèmes d'une société. C'est-à-dire que c'est vrai que, personnellement, j'aurais pensé que ça aurait été mieux que l'Europe puisse se doter d'une constitution. Mais c'est mal passé pour certainement de mauvaises raisons. Par exemple, en France, on est bien d'accord, pour des raisons assez politiciennes. Mais tout de même, si c'était passé, je ne sais pas. Donc ça aurait certainement été mieux, mais certainement pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui n'a pas été fait et qui n'a pas été fait. Alors on parlait de la Suisse, mais aussi c'est vrai dans beaucoup de pays membres de l'Union européenne par les élites politiques. Il y a un travail pédagogique parce que l'Union de l'Europe, et là on en revient à Denis de Rougemont, est un moyen, n'est pas une finalité. Mais quelle est la finalité de cette intégration? À partir du moment où les gens ordinaires, comme il disait, ne comprennent pas, ils n'adhèrent pas forcément, ils n'adhèrent que du bout des lèvres.
Mmh. Gilles Petitpierre, peut-être un mot pour conclure.
Oui, l'Europe se fait quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a des à-coups. C'est normal qu'il y ait des à-coups. Maintenant, on est dans une période un peu négative. Mais cette idée qu'au fond, tout est tout beau ou tout est tout noir, il faut corriger de nouveau ça. Ouais. On est dans une évolution difficile. Il faut rappeler aux Suisses, qui sont très souvent critiques sur l'évolution de la construction européenne, qu'ils ont mis quand même à peu près 700 ans à produire leur confédération, avec des guerres civiles, avec des guerres religieuses, etc. Donc quand ils prennent de grands airs pour dire que l'Europe est en train de ne pas se faire, ils se trompent. Elle se fait plus lentement qu'on le voudrait.
C'était le mot de la fin, Gilles Petitpierre, François Saint-Ouen, merci. Voici Anne Hampton Calloway avec un peu de blues, Blue Moon.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows in the night, the poets find beguiling, seen flat as the moonlight, with no one to stay up for, I went to bed at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all women there. Without a dream in my heart, without a love of my own, blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say appeared before me.
Infotrafic RSR
avec Migros et la pomme de terre Amandine.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, un accident provoque un ralentissement à l'approche de Morges en direction de Lausanne. Le trafic est également saturé sur la route cantonale. Des travaux nocturnes auront lieu cette nuit sur les tronçons suivants. Sur la bretelle autoroutière de Lausanne-Ouest, l'entrée de Lausanne-Malais sera fermée de 19h à 6h demain matin. Une déviation sera mise en place par Lausanne-Maladière. Et la route cantonale Neuchâtel-Yverdon sera fermée entre la jonction autoroutière d'Areuse et Boudry. Également de 19h à 6h, une déviation sera signalée par Cortaillot.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
Voilà, merci encore à nos invités Gilles Petitpierre et François Saint-Ouen. Quelques mots sur les festivités vendredi et samedi à propos du centenaire de Denis de Rougemont. Donc à Couvet, plusieurs débats du théâtre de la musique, des expositions, des renseignements par l'Office du tourisme du Val de Travers. Sinon, à Genève aussi, François Saint-Ouen.
Écoutez, oui, à Genève, le vendredi 8 septembre à 15h au Conservatoire de musique de Genève, il y aura une cérémonie commémorative du 100e anniversaire de la naissance de Denis de Rougemont. Cérémonie placé sous le haut patronage de la ville, du canton et de la Confédération.
Et d'autres commémorations ailleurs qu'on n'a pas le temps d'évoquer. L'émission Mordicus également y reviendra vendredi, 9h30, 11h sur la première. Demain, dans Recto Verso, nous allons voyager en Égypte et au Liban avec la réalisatrice d'un film qui sort cette semaine en salle. Ça s'appelle Dounia. Histoire d'amour et portrait de femme avec des questions sensibles comme l'excision. Nous en parlerons donc demain avec Jocelyne Sab. Bonne soirée, à demain, 17h.
Recto Verso avec le Vacherin fribourgeois AOC, fromage à la coupe. L'heure avec la Paternelle, mutuelle d'assurance pour les orphelins, paternelle.ch.